Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Il y a 30 ans, en mai 1983, une équipe de chercheurs de l'Institut Pasteur publie dans la revue Science la première description du virus responsable du sida, le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. À l'occasion de ce 30e anniversaire, l'Institut Pasteur, en collaboration avec le NIH, le National Institute of Health des États-Unis, la NRS, l'Agence nationale de recherche sur le sida, et SIDAction, organise un symposium international sur les recherches menées contre cette maladie. Alors, quels sont justement les dernières préconisations dans la prise en charge des patients? Sur quoi portent les recherches? Quelles avancées peut-on attendre prochainement? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec mes invités. Le professeur Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine, co-découvreur de ce VIH, qui travaille à l'Institut Pasteur. Le docteur Mathurin Cyril Tedjiokem et le docteur Patrice Tchenjou, qui viennent tous les deux du Cameroun. Ils sont chargés de recherche au Centre Pasteur du Cameroun. Et en fin d'émission, nous parlerons du coronavirus. L'Arabie Saoudite a fait état d'un nouveau cas d'infection le week-end dernier. RFI. Professeur Françoise Barré-Sinoussi, docteur Mathurin Cyril Tedjiokem et docteur Patrice Tchenjou, bonjour.
Bonjour.
Merci vraiment à tous les trois d'être là. En 30 ans, quelle est pour vous l'avancée majeure dans la lutte contre le sida, Françoise Barré-Sinoussi?
Vous ne serez pas très surprise si je vous dis que l'avancée majeure a été dans le domaine du traitement, puisque il y a quand même ces combinaisons thérapeutiques aujourd'hui qui permettent aux personnes de vivre avec leur virus, et lorsqu'elles sont traitées le plus précocement possible, aussi de réduire en même temps le risque de transmettre aux autres. Donc c'est une avancée majeure. Et puis la première avancée, ça a été bien sûr les tests de dépistage qui étaient accessibles dès 85 et qui là encore ont beaucoup évolué aujourd'hui.
Docteur Mathurin Cyril Tedjiokem, pour vous, quelle est l'avancée majeure?
Oui, à côté de la prise en charge, comme vient de l'indiquer le professeur Françoise Barré-Sinoussi, moi, j'ai noté également l'évolution des esprits, la progression des populations dans l'acceptation de cette maladie, avec aujourd'hui la bonne compréhension que c'est une maladie chronique comme toutes les autres.
C'est-à-dire, c'est moins tabou?
Oui, le tabou est en train de se dégager un tout petit peu.
Docteur Tchenjou, pour vous, l'avancée majeure?
Ce serait à deux niveaux, à notre avis, en plus de ce qui a été mentionné par le professeur François Barré-Sinoussi et docteur Mathurin Tedjiokem. Il y a déjà la façon dont la lutte se mène, l'approche pluridisciplinaire, le fait d'avoir aussi bien les cliniciens, les populations, la communauté impliquée tous ensemble dans ce combat. Ça a été très important parce qu'on voit très bien, notamment dans les pays en voie de développement, qu'il est important de pouvoir impliquer les communautés pour que la lutte puisse avancer. Ça, c'est l'un des points. Et l'autre point, évidemment, c'est le fait que le VIH, à travers les réalisations, à travers tout ce que l'on voit sur le VIH, ça aide à progresser également pour tous les aspects de la santé de la reproduction.
Je m'attendais, tous les deux, côté camerounais, que vous me disiez, dans la plus grande avancée, c'est le fait que ces traitements, maintenant, soient aussi disponibles au Sud. Est-ce que le sida n'est pas une des premières maladies où on s'est vraiment préoccupé que les traitements ne soient pas disponibles qu'au Nord, mais aussi au Sud, à un prix abordable?
Oui, cette partie, on la mettait un peu dans le volet accès au traitement. C'est forcément une des plus grandes avancées de la lutte contre cette maladie, le fait d'avoir très rapidement décentralisé les outils de diagnostic, les outils de suivi et les traitements. Et au niveau des pays du Sud, on voit très bien qu'il y a un engagement politique dans la mise en place gratuite de ces traitements, même si c'est un challenge pour la pérennisation.
Françoise Barré-Sinoussi, juste une réaction là-dessus. Est-ce que c'est pas quand même une des premières pathologies où on s'est autant préoccupé de l'accès au traitement dans les pays en développement?
C'est sûr que bon, le VIH-SIDA est quand même un exemple effectivement de mobilisation des efforts internationaux pour l'accès aux soins, aux traitements et à la prévention dans les pays les plus affectés. Suivi derrière aussi des efforts pour la tuberculose et la malaria, d'ailleurs, à travers le Fonds mondial. Donc oui, c'est un bel exemple de ce que les efforts internationaux peuvent apporter, mais il faut pas baisser les bras. Faut surtout pas baisser les bras parce que avec la crise économique internationale, nous avons tous des inquiétudes avec la diminution des engagements d'un certain nombre de pays. Et puis on le voit au Cameroun en ce moment où il y a des problèmes qui sont pas liés à des problèmes de financement, mais des problèmes de logistique, des problèmes d'approvisionnement en médicaments. Avec des patients aujourd'hui au Cameroun, on entend dire qu'il n'y a plus assez de traitements, les premières combinaisons qui sont utilisées pour traiter les patients, et on utilise ce que l'on a l'habitude de prendre pour les échecs de la première combinaison thérapeutique, et donc les deuxièmes lignes de traitement. Et puis, il va peut-être pas y avoir assez, et un certain nombre de patients risquent de ne plus avoir accès au traitement. Ça, c'est inadmissible.
De façon très concrète, alors, puisqu'on parle de cet accès aux soins et aux traitements au Cameroun, ça veut dire que des patients qui sont sous traitement antirétroviraux sont confrontés à des ruptures de stock, sont obligés d'interrompre leur traitement parce que le traitement n'est pas disponible, c'est ça que ça veut dire ?
Exactement, et là, on comprend pas pourquoi. On comprend pas pourquoi, une fois de plus, puisque ça n'est pas une question d'argent. C'est une question d'organisation, de logistique, pour l'approvisionnement de ces médicaments et leur distribution dans les structures de santé du pays. Et là, il y a des responsabilités en cause. Il y a des responsabilités, bien sûr, des autorités camerounaises. Il y a des responsabilités aussi, pour moi, des organisations des États-Unis, des Nations Unies qui sont présentes sur place. Là, il faut quand même qu'on travaille tous ensemble pour régler ces problèmes d'approvisionnement qui existent au Cameroun, qui pourrait se poser ailleurs. J'entends même au Cambodge où je vais régulièrement que là aussi tout n'est pas parfait en termes d'approvisionnement. Donc là, il y a quand même des efforts à faire.
Docteur Chanjou, docteur Tijokem, vous confirmez ce que dit le professeur Françoise Barécine aussi?
Ben, sur le terrain, on observe des ruptures de traitement, de prise en charge des patients. Donc c'est pour ça que je disais tantôt que l'engagement politique dans la mise en place gratuite des traitements a été un effort très très important, et le prochain challenge, c'est de voir comment pérenniser cette action. C'est sûr que dès le démarrage c'est un gros engagement, et il y a des balbutiements, et maintenant il faut vraiment essayer de roder la stratégie pour que tout ça reste...
Et ça, c'est compliqué quand même pour le patient, parce que nous, on le répète beaucoup dans les émissions, vous le répétez aux patients, c'est très important de prendre son traitement régulièrement, de ne jamais arrêter, et or là, ils sont confrontés à arrêter à cause de rupture de stock.
Oui, oui et non, parce que quelquefois il faut dire que les cliniciens réussissent à changer ou à modifier les protocoles de traitement pour le faire.
Ils modifient les combinaisons thérapeutiques. Ils essayent de faire au mieux.
Ce que vous disiez, en prenant par exemple une deuxième ligne qui est disponible. Mais ça, c'est embêtant.
Et c'est aussi embêtant parce que si jamais ces patients arrivent à développer des résistances au traitement, ça veut dire que les panoplies de combinaisons thérapeutiques, elles ne sont pas non plus si larges que ça. Et je pense que ça, à la fois, ça montre combien il y a encore besoin d'efforts dans l'organisation du système de soins, mais aussi combien la recherche reste importante, parce que ça veut dire qu'il nous faut une nouvelle stratégie thérapeutique pour demain, pour éviter ce type de problème.
Et on va voir justement tout au long de cette émission sur quoi portent vos recherches aujourd'hui.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, je reçois d'éminents chercheurs sur le sida, le professeur Françoise Barécine aussi, les docteurs Tijokem et Chanjou, qui viennent tous les deux du Cameroun. Alors justement, j'aimerais bien savoir sur quoi portent vos recherches aujourd'hui. Alors, docteur Mathurin Cyril Tijokem, j'ai dit, vous travaillez au Centre Pasteur du Cameroun. Concrètement, sur quoi portent vos recherches sur le sida aujourd'hui?
Oui, nos recherches sur le sida portent aujourd'hui, et ça c'est une continuité, sur la prévention de la transmission mais enfant du virus du sida. Nous travaillons sur cette thématique depuis bien longtemps et actuellement nous avons progressé vers la prise en charge de l'enfant infecté par le virus et nous développons actuellement et ça c'est depuis 2007 un projet qui est financé par l'Agence nationale de recherche sur le sida.
L'ANRS.
Hein. L'ANRS, c'est un projet qui a pour objectif d'évaluer la faisabilité des traitements antirétroviraux administrés précocement chez les enfants infectés par le VIH. Et en deuxième position, on essaye d'évaluer également chez ces enfants la réponse au vaccin du programme élargi de vaccination.
Donc, les vaccins, par exemple, le vaccin contre la rougeole, voir de façon très concrète comment il est efficace sur un enfant qui est atteint par le VIH.
Voilà, on essaye de regarder la réponse à tous ces vaccins, rougeole, diphtérie, tétanos, coqueluche. Et donc, c'est sur ce projet que nous travaillons jusqu'à maintenant et le suivi de ces enfants qui pour nous est une cohorte d'enfants infectés par le VIH. À côté, on a deux groupes d'enfants non infectés, nés de mets séropositifs et nés de mets séronégatifs, qui vont nous permettre d'avoir des réponses assez intéressantes à la fin, en essayant de comparer les réponses dans les différents groupes. À côté de la prévention de la transmission mère-enfant et de la prise en charge des enfants infectés par le VIH, nous développons également une autre activité sur les outils diagnostiques de la tuberculose chez l'enfant infecté par le VIH. Et sur ce projet, nous sommes en partenariat avec les autres sites, le Burkina Faso, le Vietnam et le Cambodge qui porte vraiment ce projet sur
le diagnostic. Et ça veut dire que le diagnostic de la tuberculose sur ces enfants porteurs du VIH est plus difficile?
Oui,
et il faut trouver des outils diagnostiques meilleurs, c'est ça?
Ce projet vient directement essayer de résoudre un problème, celui du diagnostic de la tuberculose, qui est très difficile déjà chez l'adulte, encore difficile chez l'enfant, et il est encore plus difficile lorsque l'enfant est infecté par le VIH. Donc, c'est un projet qui essaye de développer des nouveaux outils.
Et alors, comment travaillez-vous, par exemple, avec le professeur Françoise Barré-Sinoussi sur des questions sur ces recherches-là? Parce qu'on comprend bien, ce sont des recherches qui ne sont pas menées qu'au Cameroun, vous avez entre autres cité le Cambodge, comment ça se passe?
En gros, déjà notre institut appartient au réseau international des instituts Pasteur. Et donc pour nous, c'est déjà un réseau qui nous permet très facilement de bénéficier de l'expertise des chercheurs du Nord, qui nous permet directement d'être en contact pour développer un certain nombre de stratégies de lutte qui ont été suffisamment éprouvées en recherche fondamentale pour voir un peu comment sur le terrain on pourrait les appliquer un peu plus facilement. Donc le professeur Françoise Barré-Sounissi, que nous avons la chance de côtoyer depuis très longtemps, nous encourage énormément,
Je tiens à dire quand même que la majorité du travail est fait sur place.
Votre rôle, c'est quoi justement l'Institut Pasteur, Françoise Barré-Sinoussi? C'est de coordonner?
Ça a été à la fois de participer en même temps à la formation, au transfert surtout, au transfert directement sur place d'un certain nombre de savoir-faire, d'un certain nombre de technologies. Et puis maintenant, on sert plus d'activités, j'allais dire, de conseils dans cette interaction avec le Centre Pasteur du Cameroun, comme avec d'autres Institut Pasteur du réseau. Et puis aussi, Mathurin l'a dit, travailler de plus en plus sud-sud. C'est pour nous extrêmement important parce qu'ils peuvent bénéficier des expériences qui peuvent être similaires ou distinctes selon les pays du sud. Et donc ce travail à la fois pluridisciplinaire, site dans les pays du Sud nous paraît complètement essentiel de pouvoir voir selon les contextes, selon l'environnement des pays, selon aussi le contexte y compris politique aussi des pays, comment ils peuvent adapter justement leur programme de recherche et puis travailler aussi très proche des structures de santé de ces pays. Et ça, certainement que le réseau international des instituts Pasteur, qui est un réseau quand même de laboratoires au départ, là, a la possibilité de travailler peut-être encore plus proche que d'habitude des structures de soins des pays.
Et ce réseau est une chance pour la recherche.
Ce réseau est quelque chose de remarquable et d'assez unique, je dois dire, au monde. Et ce réseau, il faut absolument non seulement travailler avec, mais le renforcer tant financièrement qu'en ressources humaines, parce que il y a des gens très très bien comme Mathurin et comme Patrice, mais ils sont rapidement débordés parce qu'il n'y a pas suffisamment de ressources humaines dans les pays du Sud et y compris dans le réseau international des instituts Pasteur.
Docteur Chanjou, vous travaillez donc aussi dans ce centre Pasteur au Cameroun. Sur quoi portent vos recherches?
Nos travaux portent également sur la thématique de la prévention de transmission mère-enfant, mais plus spécifiquement sur la question du dépistage, de l'arceau dépistage. Parce que, comme on l'a signalé depuis le début de cette émission, le dépistage est quand même la clé, le point d'entrée pour l'ensemble des interventions dans le cadre de la lutte contre le VIH-SIDA. Et ce que l'on sait, c'est que de plus en plus, malheureusement, notamment pour ce qui concerne les femmes enceintes, après le dépistage, on a un problème à l'adhésion de l'ensemble des interventions qui sont proposées, aussi bien l'adhésion par rapport au traitement, à la prévention, que l'adhésion par rapport à la pratique de la sexualité à moins de risques. Donc, un ensemble d'interventions qui sont proposées une fois que les femmes ont été dans le système de santé. Ce que l'on sait aussi, c'est que cela est très influencé par le partenaire.
Et qu'on a eu tendance à les oublier,
voilà,
ces hommes.
Non seulement on a tendance à les oublier, mais avec l'ensemble des travaux, on voit que très peu de partenaires, on parle des chiffres de moins de 20%, et parfois dans les pays en développement, comme le Cameroun, même moins de 5% des partenaires de ces femmes enceintes qui font le dépistage. Du coup, il y a une sorte de goulot d'étranglement. Alors, le travail que nous faisons, qui est également financé par l'Agence nationale de recherche sur le sida, et qui s'appelle l'étude PrénaTest, Prenatal HIV Testing, vise justement à proposer une intervention pour faciliter l'implication du partenaire dans le dépistage prénatal. Il s'agit d'une intervention qui est délivrée au cours de la consultation prénatale, qu'il renforce de façon importante les capacités de la femme à pouvoir introduire, communiquer, discuter de la question du VIH avec le partenaire. Et c'est également une étude multicentrique qui se fait dans, on va dire, 4 pays, 4 continents, dont le Cameroun est un des pays, le pays en Afrique, mais sinon le projet également s'est fait en Inde, en République dominicaine et en Géorgie. L'idée étant derrière, comme la question de l'implication du partenaire est essentielle, on a posé...
Et ça prouve qu'elle se pose dans tous les continents.
Voilà, exactement, tout à fait, exactement. Et donc, l'idée de ce travail, c'était d'arriver à regarder maintenant quels sont les aspects qui pourraient être bénéfiques pour améliorer cette implication du partenaire, parce que derrière cela, avec le dépistage, non pas seulement de la femme, mais aussi du partenaire, on est en train d'améliorer, on va voir, la prévention au sein du couple. Parce que même la question, vous imaginez si on a des couples sérodiscordants, la question de la prévention se pose.
Sérodiscordant, c'est-à-dire il y en a un qui est séropositif et pas l'autre. Hein.
Voilà, tout à fait. Et même, on peut aller plus loin parce que même des couples séroconcordants négatifs, il faut, une fois qu'ils ont été dans le système de santé, il faut tout faire pour qu'ils restent négatifs. Ou alors des couples séroconcordants positifs, il faut tout faire pour qu'ils mettent en œuvre tous les conseils pour la prévention, pour éviter la recontamination, parce que derrière, il y a d'autres questions qui se posent. Donc, c'est autant de questions qui sont traitées dans le cadre de ce projet.
Ce qu'on comprend bien, on va y revenir dans la deuxième partie de cette émission, c'est que vos recherches, il y a la partie, je dirais, scientifique, on sait maintenant ce qu'il faut faire sur la prévention de la transmission mère-enfant, mais maintenant, vos recherches, c'est de montrer concrètement comment elles peuvent s'appliquer pour qu'on réussisse au mieux. On en reparle, si vous voulez bien, dans la deuxième partie de cette émission. On se retrouve dans 3 minutes, juste après les infos.